et bon dimanche. On est vraiment heureux ce matin de pouvoir vous apporter quelques chants. Alors je ne sais pas où c'est que vous vous trouvez, si vous êtes à l'hôpital, à la maison, peut-être même au travail. S'il y a les enfants, si les enfants vous êtes là, vous pouvez danser ce matin, les parents, vous pouvez frapper dans les mains. Mais surtout, surtout que l'on soit connecté à notre Dieu ce matin. Amen.
Amen.
Tu es
es majestueux, que tu as snorlé ton fils. Et ça, c'est vraiment un acte d'amour qui n'est pas comparable. Parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur. Et nous, tu nous demandes simplement en retour de t'aimer. Et Seigneur, aujourd'hui, on voudrait vraiment te dire que nous t'aimons et que nous voulons faire, Seigneur, ce qui te rend heureux et ce qui te rend heureux, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce moment, pour ce culte. Je te prie vraiment de venir les différents intervenants qu'il va y avoir. Même si on est à la maison, Seigneur, on voudrait faire les choses bien, sérieusement, parce que tu veux que nous soyons sérieux avec toi. Et même là où nous sommes, Seigneur, à l'hôpital, à la maison, oui, Seigneur, nous voulons faire les choses sérieusement et te dire oui pour cette vie avec toi. Amen.
Amen. Merci, Seigneur, parce que même dans la souffrance, Seigneur, même dans les moments les plus beaux, Seigneur, tu restes là, Seigneur, tu restes fidèle, tu restes le même, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, on veut simplement te louer, t'adorer, parce que, Seigneur, tu restes fidèle, Seigneur. Et Seigneur, quand même, Seigneur, parfois, nous, on peut être paniqués, Seigneur, toi, tu ne changes pas, Seigneur. Tu restes le capitaine du bateau, et tu sais où tu veux nous mener, Seigneur. Et ce matin, on veut te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Amen.
Des cieux. Jésus, nous t'élevons plus haut. que je sais que tu parles, Papa Seigneur. Tu édifies, Papa Seigneur. Que les paroles de chant, Papa, que nous avons chantées puissent, Papa, édifier, Papa, toucher, Papa, réconforter, Papa, et faire du bien, Papa, toutes les personnes, Papa, qui l'écouteront et qui chanteront avec nous, Papa. Bénis, Papa, le serviteur, Papa, qui va apporter maintenant le message, et que le message, Papa, puisse également, Papa, Seigneur, nous aider, Papa, tous les jours, Papa, de nos vies, Papa, afin que ta gloire et ta seule gloire soient glorifiées. Amen.
Amen.
Amen. La louange fait tellement du bien. Elle rebooste, elle nous remet en forme. Alors maintenant, le temps de louange est terminé et nous allons passer à un temps d'annonce en premier et après le message.
Bonjour les filles, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en live ou en décalé. Nous sommes confinés, dispersés et pourtant nous sommes tous ensemble pour vivre ce temps de culte. Je crois que nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres, nous n'avons jamais été aussi solidaires les uns des autres que dans cette période tellement particulière. Que Dieu nous aide non seulement à survivre, mais à sortir de cette épreuve en ayant grandi. À l'heure où je vous parle, les bonnes nouvelles alternent avec les moins bonnes. Plusieurs sont encore hospitalisés. D'autres ont pu rentrer à la maison, ils sont sous surveillance médicale, d'autres se retrouvent avec des symptômes légers, et malheureusement, nous avons plusieurs décès à déplorer. Nous aurons l'occasion avec toute l'Église de manifester notre sympathie et notre affection aux familles endeuillées. Nous n'avons pas pu le faire pour le moment à cause des circonstances qui nous l'imposent. Vous trouverez la liste des personnes contaminées dans la dernière édition d'Épinous. C'est une édition spéciale. Si vous n'avez pas accès à cette liste, eh bien vous pouvez nous contacter sur notre adresse e-mail contact@epis-6strasbourg.eu. Plusieurs d'entre vous, vous nous avez demandé comment faire pour continuer à donner financièrement pendant ce temps de confinement. C'est très simple, vous pouvez aller sur le site de l'EPI, www.epis-6strasbourg.eu. Vous trouverez le lien qui vous donnera toutes les indications. D'avance, un grand merci pour votre générosité. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute du message que Dieu a préparé pour cette journée. C'est le pasteur Pierre Samuel qui va nous parler. Avant qu'il ne parle, je voudrais prier avec vous et demander au Seigneur qu'il touche nos vies, qu'il touche nos cœurs. Seigneur, dans ces temps tellement particuliers, nous ne voulons pas seulement survivre, mais nous voulons te demander de nous aider à grandir dans notre relation avec toi, à grandir aussi dans notre relation les uns avec les autres, avec notre entourage. Merci de venir toucher nos cœurs et merci de nous aider à mettre en pratique ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous et merci à tous les internautes de nous rejoindre. Merci d'être avec nous depuis votre salon, votre cuisine ou votre chambre, peu importe. Mais en tout cas, merci d'être avec nous et merci à tous ceux qui vont regarder ce culte en replay, en décalé. On a beaucoup de joie de pouvoir partager la parole ensemble, de pouvoir partager ce que Dieu a à nous dire comme message. Je crois que Dieu a un message pour chacun d'entre nous dans les zones et dans les périodes par lesquelles on est en train de passer. Le thème que Dieu a déposé sur mon cœur vient d'une discussion que j'ai eue aussi avec un ami et on partageait ensemble sur la notion de réserve. Comment vivre finalement ces temps de crise et quelles sont les réserves que nous avons pour faire face à la crise ? Vous avez vu comme moi les actualités et beaucoup de personnes se ruent sur les magasins pour faire des réserves. Mais autant certaines réserves sont bonnes, autant d'autres réserves peut-être nous montrent le vrai caractère des gens, ou en tout cas nous inquiètent, ou en tout cas peuvent nous amener à nous poser la question, et c'est marrant parce que c'est une question qu'on se posait avec ma femme, finalement de se dire, mais vous croyez pas que ça va finir par pourrir à force d'avoir trop de trucs dans nos garages ? Bref, bon, c'était une simple question, mais qui m'a amené quand même à cette réflexion de dire, mais dans cette temps de crise, finalement, où sont mes réserves ? Et pour parler de ce thème, j'aimerais vous parler de Joseph. J'aimerais introduire simplement ce temps ensemble avec l'histoire de Joseph. Si on se souvient bien, vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, on est dans la Genèse, et alors que Joseph va être emprisonné, quelques 2 ans après avoir été abandonné, Pharaon va faire un rêve. Et Pharaon va anticiper à travers ce que Dieu va lui dire, qu'il va y avoir sur l'Égypte, au final, 7 années d'abondance, et puis 7 années de famine. Et alors qu'il a ce rêve, il ne comprend pas ce qui se passe, et puis ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que l'homme qui est dans la prison avec Joseph va se souvenir de Joseph, et va en parler à Pharaon, et présenter Joseph comme étant celui qui est capable d'interpréter les rêves. Pharaon va faire venir Joseph, et Joseph va expliquer à Pharaon la vision qu'il a eue. Et Joseph va amener, là devant Pharaon, cette explication que pendant 7 années en Égypte, il va y avoir de l'abondance, et 7 années après, il va y avoir de la famine. Et pendant ces 7 années, Joseph va conseiller au Pharaon, alors qu'il ne s'est encore pas rencontré, alors que voilà, il vient de la prison directement. Joseph va conseiller au Pharaon, finalement, mettre en place des réserves pour faire face aux 7 années qui vont avoir lieu de famine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Pharaon va reconnaître en Joseph un homme qui a des énormes qualités, et on va en parler ensemble. La question que j'aimerais me poser et qu'on se pose aujourd'hui, c'est que dans ces temps par lesquels nous sommes en train de passer, qui sont des temps de crise, qui sont comme des temps de famine, où finalement on se retrouve et on n'a pas forcément de la nourriture comme on a l'habitude. J'entends bien, et c'est important de le préciser. On n'est pas dans ces temps de famine où il n'y a rien du tout. On est chez soi, vous êtes derrière votre écran, et par la grâce de Dieu, on peut encore garder des contacts. Mais quand je parle de famine ici, je parle aussi de moments où nos habitudes ne sont plus les mêmes. On ne peut plus se réunir comme on le veut. Où l'Église elle-même est déstabilisée parce que finalement, on n'a plus notre rassemblement dimanche, on n'a plus nos réunions de prière, et puis voilà, on se pose des questions. Et la question que je me suis posée à travers le texte de Joseph est celle-ci. Est-ce que moi, je suis prêt à être un Joseph pour ma génération, dans la génération dans laquelle je me trouve, pour être capable de comprendre et d'analyser ce qui est en train de se passer et de faire les bonnes réserves? La deuxième question que je me pose et que je vous pose, c'est où sont tes réserves? Où as-tu placé tes réserves pendant ces temps de crise? C'est assez intéressant d'avoir des discussions avec les gens qui, face à cette crise, deviennent comme paniqués dans tous les sens, ce qu'on peut comprendre évidemment. Mais qui n'ont pas pris peut-être cette habitude au final d'aller puiser dans les réserves qu'ils ont, dans leur relation avec Dieu. Et on va parler de ça ce matin. On va échanger ensemble sur cette notion de réserve. Et d'ores et déjà, dans ta tête, dans ma tête, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai des bonnes réserves? Est-ce qu'elles sont au bon endroit, au bon moment? Le texte qu'on va partager ensemble se trouve dans Genèse 41-38. Et c'est le texte où Pharaon va s'adresser à ses sages et ses conseillers en parlant de Joseph. Et il nous dit, « Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. » J'aimerais dans un premier temps, et c'est ma première partie, vous parler des qualités de celui qui fait des réserves. Quelles sont les qualités qu'on va trouver chez Joseph? Quelles sont les qualités finalement que Pharaon, qui est finalement un incroyant, va découvrir chez Joseph? La première chose, la première qualité, et c'est vraiment interpellant, c'est que Pharaon va découvrir chez Joseph, c'est un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Pharaon là est étonné parce qu'aucun de ses magiciens, ni de ses sages, n'a réussi à comprendre ce rêve. Mais Joseph, lui, a quelque chose de plus qui lui permet de faire la différence. Et je crois que la première qualité de quelqu'un qui fait des réserves, et c'est une qualité à laquelle on doit s'atteler, c'est non pas d'être rempli d'une intelligence humaine, mais d'abord et avant tout, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, qui nous permette en réalité de comprendre ce que Dieu veut nous dire dans les moments par lesquels nous sommes en train de passer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont en relation avec lui, des hommes et des femmes dont l'Esprit de Dieu réside en eux. La Bible nous dit, et ça se trouve dans 1 Corinthiens 2,11, « Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, Nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. La chose que Pharaon remarque ici, c'est que chez Joseph, il y a quelque chose de particulier. C'est un homme en qui réside l'esprit de Dieu. Le deuxième aspect que Joseph, que Pharaon va découvrir est celui de l'intelligence de Joseph. Si on prend le mot intelligent, on va aller voir un petit peu dans ce que ça veut dire dans la langue d'origine, et on entend la signification comme discerner, comprendre, considérer, regarder, remarquer. Et je crois qu'une des qualités que Dieu recherche dans ces hommes qui font des réserves, ces femmes qui font des réserves, c'est cette qualité à discerner, à comprendre les situations par lesquelles nous vivons. L'Épître aux Hébreux va nous rappeler que le discernement est une marque de maturité. Je vous le lis, ce texte-là, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous êtes en point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le texte des Hébreux ici n'est pas super encourageant vis-à-vis de nous, mais doit nous interpeller dans la notion que l'on a en réalité de cette maturité. Mais la suite nous dit « Celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui en raison de leur expérience ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Je crois que Dieu est en train de nous parler dans la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Chers amis, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont matures spirituellement, capable de discerner les temps par lesquels nous sommes en train de passer. Le troisième aspect que nous voyons chez Joseph et que Pharaon voit au final, c'est la sagesse. Alors on pourrait croire que la sagesse, c'est le fait de bien raisonner. Mais le mot ici qui est utilisé, c'est la version, dans les Strong, c'est ce qu'on nous dit, c'est l'habileté dans un travail. C'est quelqu'un qui est expérimenté. C'est le même mot qui va être utilisé quand Moïse va être en train de construire le tabernacle, et que Dieu va dire que l'Esprit de Dieu a qualifié des hommes et leur a donné une habileté particulière pour construire la tente de la rencontre. Je crois que cette sagesse dont Pharaon fait l'éloge en parlant de Pharaon, en parlant de Joseph, doit nous interpeller. Je crois qu'au final, de la même façon, dans les moments par lesquels nous passons, Dieu cherche des hommes et des femmes habiles, sages et capables de gérer la crise de la bonne façon. Ah, je ne crois pas que Dieu nous dise « Bon, bah, laissez les choses se faire, on verra bien ce qui va se passer. » Non, en réalité, je crois que Dieu va nous amener dans cette crise, dans cette phase par laquelle on est en train de passer, à simplement à rechercher la sagesse qui vient d'en haut, la capacité, l'habileté pour gérer les choses comme il le faut. Force est de constater que beaucoup ont découvert qu'il y avait dans les cœurs de beaucoup des talents inexploités, des talents cachés. C'est extraordinaire de voir comment la solidarité va se mettre en œuvre. Michel nous partageait que nos aînés, et nous pensons bien à vous les aînés si vous êtes en train de nous regarder, les aînés s'appellent entre eux, prennent du temps, s'entourent. On ne peut pas être avec tout le monde, mais c'est notre cœur qui va parler dans ces situations de crise. Et on a besoin de sagesse pour gérer les choses de la bonne façon. Ça va, vous êtes toujours là ? Ouais. Comprenez bien ensemble que les trois qualités que Pharaon va découvrir chez Joseph commencent d'abord par le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu, ensuite continue par l'intelligence qui va découler finalement de l'Esprit de Dieu, et enfin la sagesse, les trois qualités qui vont être mises en avant. J'aimerais attirer votre attention sur un point qui me paraît essentiel, c'est que l'intelligence va nous ramener à la perception et au discernement, la sagesse à la façon dont on va faire les choses. Mais l'intelligence et la sagesse seules ne feront pas l'effet, n'auront pas de puissance. Mais les deux poussées, accompagnées par ce que Dieu va déposer dans notre cœur, va faire la différence. C'est ensemble que ça va faire la différence. Si vous êtes rempli d'intelligence et de sagesse, vous allez avoir énormément de principes. Très bien, je sais comment gérer. Mais l'Esprit de Dieu va donner de la puissance à cette sagesse et cette intelligence. Je crois que quand on est en relation avec Dieu, lorsque son esprit réside en nous, Dieu nous permet de réagir de la bonne façon, d'être sage et intelligent. La question que je voudrais vous poser en conclusion de cette première partie est celle-ci. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu ? Dans cette situation, est-ce que tu fais preuve de sagesse ? Est-ce que je fais preuve de sagesse, d'intelligence ? Qu'en est-il de ta relation à Dieu ? Où en es-tu ? C'est très intéressant de voir que dans cette crise, beaucoup retrouvent leur cœur avec Dieu. Vous savez, c'est pas pour rien qu'à un moment Dieu a dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Chers amis, quand on est confiné, on a le choix de la source à laquelle on va puiser. Et je veux vraiment vous encourager. Laissez garder cette relation avec Dieu, développer cette relation avec Dieu. Parfois, on peut être terrassé par la peur, par les émotions, et on n'est pas en train de négliger les émotions. Mais je crois que quand tu développes ta relation avec Dieu, de là va découler finalement la sagesse et l'intelligence pour faire face à cette crise. Voilà les trois qualités qu'un homme qui fait des réserves a au fond de lui. Et c'est à chacun d'entre nous de nous poser la question où on en est par rapport à ça. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, après avoir vu quelles sont les trois qualités d'un homme finalement qui fait des réserves, c'est où puiser nos réserves. Comment Joseph au final est arrivé à ce point où il en était là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joseph soit cet homme-là? Je crois que le premier point que je voudrais développer avec vous dans cette deuxième partie est celui-ci. Les réserves de Joseph sont acquises simplement dans sa relation avec Dieu. Une des caractéristiques qu'on trouve dans Joseph, c'est qu'à plusieurs reprises, des textes vont nous dire que Joseph et l'Éternel ne font qu'un. C'est assez intéressant de voir que dans Genèse 37,5, par exemple, il nous est dit « Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères ». Il n'a que 16 ans, ou en tout cas une quinzaine d'années, c'est un adolescent. Et il reçoit déjà des révélations de la part de Dieu. Genèse 39,2 va nous dire « L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Genèse 39,23, il ne s'occupait plus rien de ce qui se passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. » Je suis assez halluciné de cette relation et cette proximité qu'il y a entre Joseph et l'Éternel. Même à tel point qu'on dit que c'est l'Éternel qui est avec Joseph, c'est même pas Joseph qui est avec l'Éternel. Et pour moi, ça m'interpelle. D'ailleurs, si vous lisez la suite des textes, après la famine, on ne va plus forcément entendre parler de la relation entre Joseph et l'Éternel. On va juste entendre parler de la façon dont Joseph va gérer les événements. Ce qui me prouve bien que Joseph a acquis beaucoup de choses durant les événements de sa vie par lesquels il est passé. Dans les événements et dans les lieux dans lesquels Joseph se trouve, l'Éternel est avec lui. Joseph est-il meilleur que vous et moi? Je crois pas. Joseph avait certainement ses défauts. Mais Joseph avait décidé d'établir une relation forte avec Dieu. Et cette relation que Joseph avait avec Dieu n'est pas uniquement pour lui. La Bible nous parle de Jésus. Jésus comme étant celui qui est avec nous tous les jours. Si Jésus est avec nous tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un moment de se dire « Mais ok, ça veut dire que j'ai accès moi aussi à la présence de Dieu. » La mort de Jésus à la croix nous a permis d'avoir une relation d'intimité avec le Père. Cette relation de proximité, on n'est pas tellement différent de Joseph. Et je crois que Dieu est en train de nous parler en disant « Mais où est-ce que tu vas puiser ta source ?» Encore une fois, je crois que Jésus nous permet d'avoir accès à cette relation et cette proximité. Le premier point est celui-ci. Dieu a la volonté, le désir d'entretenir avec nous une relation de proximité. Et dans cette crise, il est plus que jamais nécessaire d'aller puiser nos réserves dans ce cœur à cœur avec Dieu. S'il te plaît, passe pas à côté de ce moment-là. On en a tellement besoin, vous comme moi, j'en ai besoin. Et je sais que Dieu a des réserves pour nous, justement, c'est ça qui est extraordinaire. Le deuxième aspect que je voudrais traiter dans cette deuxième partie est celui-ci. Dans cette relation particulière avec Dieu, il y a un choix de Joseph, de rester intègre jusqu'au bout. Autant la relation avec Dieu, elle est là et c'est Dieu qui l'entretient, mais il y a aussi un choix de notre part, de rester intègre dans ce qu'on vit au quotidien. Son intégrité à Joseph, vous allez la remarquer quand il va être tenté avec la femme de Potiphar. Il va résister. Mais on le voit aussi quand il est en prison. On le voit aussi quand il est auprès de Pharaon. On le voit avec ses frères et sœurs. Et je crois que c'est un choix que nous devons faire de dire « Mais Seigneur, je veux rester intègre ». Le mot « intègre » se traduit par « complet, entier, saint, parfait, sans défaut ». Laissez-moi vous interpeller sur un point. Joseph lui a fait le choix de l'intégrité. Et c'est cette réserve-là qui fait qu'il va aller là où Dieu a prévu qu'il aille. Maintenant, parfois, on peut faire le choix de certaines réserves qui ne sont pas forcément les bonnes. Quand tu as été blessé dans ta vie, quand l'amertume, la rancœur commence à prendre de la place, quand le non-pardon est là, finalement, quand y a des choses qui sont au fond de ton cœur que tu n'as pas réglées, eh bien, en fait, les réserves que tu es en train de faire sont des réserves qui sont en train de pourrir l'intérieur de ta vie. Et Joseph n'était pas un surhomme, mais lui, il a choisi de rester intègre. Et ça nous parle à nous, à chacun d'entre nous. Je vous encourage à ne pas avoir ces mauvaises réserves. C'est intéressant de voir que pendant cette crise, beaucoup même vont essayer de rétablir le contact. Parce qu'ils se disent, et quelqu'un me partageait encore récemment, quelqu'un qui est passé par une situation difficile, elle me disait, cette personne, elle me dit, mais même ma belle-fille a repris contact avec moi. Et je crois que peut-être que cette crise doit t'appeler et m'appeler à dire, mais quelles sont les réserves que j'ai? Qu'est-ce que j'ai contre mon frère? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ce non-pardon reste-t-il encore présent? Vraiment, je crois que c'est une parole pour toi ce matin. Ne garde pas ça. Garde pas ça. C'est des mauvaises réserves et ça pourrit. Et après, quand ça pourrit, vous savez comme moi que ça sent mauvais. Et vaut mieux s'en débarrasser. Joseph, lui, avait choisi d'être intègre. Et je crois qu'il y a un point d'honneur à choisir de dire, Seigneur, je ne veux pas faire les mauvaises réserves. Je crois que c'est important de comprendre que le malheur touche aussi bien les bons que les mauvais, les intègres que les non-intègres. C'est pas ça le problème. C'est la réaction face au malheur qui fera la différence. Ce texte nous parle de manière très claire que les hommes intègres, leur héritage dure éternellement, ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur. Et rassasiés quand la famine est là. Chers amis, ne gardez pas des mauvaises réserves. Enfin, troisième point de cette deuxième partie a toute son importance. Si on a vu que sa relation avec Dieu et son choix d'intégrité ont fait que c'est là où il a pu puiser ses réserves, je crois que le troisième lieu où il a pu puiser, le troisième endroit où il a pu puiser ses réserves, c'est à travers les événements de sa vie. Je vous pose quelques questions et vous pouvez répondre si vous voulez dans le chat, c'est pas un problème. Première question, où Joseph a-t-il appris à parler l'Égyptien ? Je vous laisse réfléchir. Ok, il a certainement pas appris à parler l'Égyptien avec sa famille. Donc il a appris à parler l'Égyptien dans la maison de Potiphar. Dans la maison où il a été déporté de chez lui, abandonné, rejeté, et amené dans une maison d'un homme qu'il ne connaissait même pas. Allez, deuxième question. Où Joseph a-t-il appris à manager, à diriger les grands de l'Égypte ? Bien également dans la maison de Potiphar. On sait que Potiphar, c'était l'un des hauts fonctionnaires de Pharaon. Allez, encore une question. Où Joseph a-t-il appris à s'occuper des rejetés, des rejetés de la société et des malfaiteurs? Dans la prison. Pas dans la maison de Potiphar, vous avez bien compris, mais dans la prison. Où Joseph a-t-il appris à gérer ses émotions et ses frustrations? Dans une caravane de marchands? Dans la maison de Potiphar? Dans la prison, auprès de ses frères qui revenaient à lui? Joseph n'était pas exempt d'émotions et de sentiments. Mais Joseph a appris à les gérer. Même si parfois, ça a été certainement difficile. Comprenons bien par là que pour devenir celui qui va être l'homme qui a fait des réserves et qui va être le premier ministre d'Égypte et qui va gérer la crise de la bonne façon, les événements de la vie de Joseph ont forgé son caractère. On l'a créé, ont permis qu'il puisse prendre des bonnes décisions et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Nos réserves ne peuvent être faites que lorsque nous sommes confrontés aux besoins de réserve. Dieu a équipé Joseph pas après pas. Maintenant, la question que je vous pose, c'est que dans les événements de ta vie, que ce soit cette crise actuelle ou, les crises par lesquelles tu passes, que fais-tu des événements de ta vie? Je crois que Dieu utilise les événements pour nous parler, pour nous construire, même si c'est difficile. Et rassurez-vous, je sais de quoi je parle. On est passé avec mon épouse par des moments compliqués où tu ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi finalement tu as l'impression que tout capote. Mais je sais, j'en suis intimement persuadé que Dieu utilise ces événements pour aujourd'hui nous préparer à faire face à d'autres types de crises. Les événements par lesquels nous passons doivent nous amener non à nous plaindre, mais à saisir ces événements. Dieu nous parle dans les circonstances. La question que je te pose est celle-ci. Que fais-tu dans les temps de crise? Comment saisis-tu, au final, cette réalité par laquelle on est en train de passer? Il est temps, et je vous le dis et je parle à l'Église, il est temps que l'Église et le monde saisissent que Dieu attend de nous de ne pas nous plaindre ou de ne pas rester inactifs dans les événements de nos vies, mais de saisir ces événements pour simplement commencer à grandir, à prendre notre place en réalité et montrer que notre foi ne dépend pas des circonstances, mais bien de notre relation qu'on a avec Dieu. Dieu sait que le jour où on commencera à prendre ces temps de crise pour rebondir dessus, en anglais on utilise cette expression qui dit « stepping stone », le fait de rebondir pour aller au-dessus. Dieu sait que quand on va commencer à s'appuyer sur cette pierre, peut-être cet événement compliqué, la France va commencer à changer. Il va y avoir des choses qui vont se passer quand l'Église va dire « Ok, cet événement peut-être est en train de nous terrasser, mais on va commencer à prier, on va commencer à chercher la face de Dieu. Et cet événement, le mal va être changé en bien. C'est là que Dieu nous attend. » Frères et sœurs, n'attendons pas, ne restons pas passifs. Joseph, c'est extraordinaire, mais même dans la prison, il reçoit encore des révélations de Dieu. Même au fond de sa caverne, il est capable d'interpréter des rêves. Même déporté, humilié, il est capable d'être une bénédiction. Je sais que ce n'est pas facile ce que je vous dis, mais je vous encourage dans ma deuxième partie, on a vu que la relation avec Dieu, on a vu également que le choix de Joseph et que les événements ont fait que tous ces trois éléments ont permis à Joseph d'être un homme qui fait des réserves. Chers amis, soyons des Joseph avec ces réserves que nous allons mettre en place. J'aimerais conclure cette deuxième partie avec une citation de Nelson Mandela que j'ai toujours juste trouvée extraordinaire, qui nous dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Nelson Mandela, mais certainement vous savez qu'il n'a pas passé que des bons moments dans sa vie. Mais ce qui va en sortir comme leçon est juste extraordinaire. Alors, soyez encouragés. J'aimerais conclure avec cette troisième et dernière partie. Quelles vont être les conséquences, au final, d'une vie qui a fait des réserves, d'une vie remplie? Eh bien, la première chose, c'est que, au sein de cette crise, Dieu va nous remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Joseph n'a pas été exempté de crise, mais il a fait face à la crise. Les réserves que Joseph a pu accumuler vont constituer une expérience qui lui permettra de faire face à la crise. Ses émotions n'ont pas disparu, ses combats n'ont pas disparu. Mais le fait d'avoir fait des réserves, le fait d'avoir saisi ses réserves, ont fait qu'au final, Joseph a réussi à faire face à la crise. Je crois que, après avoir passé plusieurs moments de crise dans ma vie, que ce soit à travers le ministère, parce qu'il faut être authentique, des fois c'est pas facile, que ce soit à travers le couple peut-être, à travers les finances, à travers différentes situations, je crois que je n'ai jamais autant appris à compter sur la grâce de Dieu et sur la fidélité de Dieu en temps de crise. Je crois que Dieu nous appelle à des temps de victoire, et ça j'en suis intimement persuadé. Et je crois aussi que dans les temps de crise, Dieu nous parle pour nous amener à progresser et grandir en maturité. Souvenez-vous, c'est un des points dont on l'a cité, la maturité elle se gagne quand t'es à genoux. Elle se gagne quand tu prends des coups, mais elle se gagne, et ça c'est une réalité. Je dis pas qu'on est arrivé, on a encore du boulot ensemble, hein. Mais bon, on est ensemble, hein, tous dans la même galère. Ok, la paix dans la crise, laissez-moi vous citer ce texte. Philippiens 4:6. Ne vous mettez en souci pour rien. On continue ou... Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Ce texte va nous ramener simplement à replacer nos réserves au bon endroit. À dire, Seigneur, c'est en toi que je viens puiser mes forces et mes sources. C'est en toi que je viens puiser mes ressources. Dieu continue à agir. Cette semaine, j'ai vécu juste un truc extraordinaire alors que il y a un... Bon, je vous le partage, vous le gardez pour vous, hein, mais j'ai ma machine à laver qui vient de casser. Alors en temps de crise, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis il y a d'autres choses qui se sont accumulées. Je dis, mais purée, Seigneur, c'est pas trop le moment, quoi. Et alors que je suis en train de prier, je dis, Seigneur, ça va être compliqué. Peut-être pour vous, ça paraît un petit détail, mais pour nous, c'est un peu compliqué avec les enfants. Et puis, c'est sûr qu'il y a des situations plus compliquées que ça. Mais pour moi, ça a été un moment juste voilà, d'inquiétude. Et j'ai confié ça à Dieu. Et dans la foulée, je recevais un message de quelqu'un qui m'est proche et qui me dit, mais tiens, j'ai à cœur de donner ça et puis ça, que ça puisse t'aider. comme si Dieu me faisait un clin d'œil, même dans les petits détails. Alors, c'est évident. La situation par laquelle on passe, avec les, on est en contact avec l'équipe pastorale de toutes ces personnes qui souffrent, qui sont en difficulté. Et on pense vraiment à eux, et encore dans ce message, je tiens vraiment à leur dire qu'on est avec eux, on prie pour vous. Je voulais juste vous dire à tous ceux qui passaient par ces moments, Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dieu n'a pas arrêté, Dieu n'est pas limité, Dieu est toujours puissant. Oui, parfois, même on passe par le deuil, et certains d'entre nous, peut-être d'entre vous, vous êtes passés par le deuil de personnes très proches. Nous prions pour vous. Et c'est là qu'on découvre la consolation de Dieu d'une manière tellement extraordinaire, tellement précise, mais même plus loin que la consolation est accompagnée d'une paix qui surpasse toute intelligence. Beaucoup nous ont témoigné qu'à travers cette crise, ils ont découvert la paix que seul Dieu peut donner. Alors oui, faire des réserves permet également d'avoir la paix. Mais je termine avec ce tout dernier point. La Bible nous montre que tout le monde va se ruer vers Joseph, vers l'Égypte, pour avoir de la nourriture, parce que partout c'est la famine. Et l'interprétation, en tout cas le partage que je voulais faire, c'est que Joseph devient à ce moment-là celui qui a la bonne nourriture. Et je crois que mon point est celui-ci, nous devons être des témoins dans le monde dans lequel nous vivons. Le texte nous dit, voici 2 ans que la famine est là, c'est dans Genèse 45:6. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson, mais Dieu m'a envoyé, c'est Joseph qui parle devant vous, pour vous faire subsister sur la terre et vous garder en vie par une très grande délivrance. Chers amis, beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Et la question c'est, au final, avec toutes ces inquiétudes, les gens vont chercher des réponses. Et si nous, on n'est pas là pour donner la bonne réponse, où les gens vont-ils trouver des réponses? Je suis halluciné de voir le nombre de bêtises sur Internet, le nombre de théories de complot, mais même de critiques. Ça me fait halluciner de voir qu'il y a des gens qui finissent pas même par critiquer ce qui est fait à gauche, à droite. On parle, on n'arrête pas de parler, mais en réalité, est-ce que c'est là ce que Dieu nous demande de donner aux gens? Et entre nous, hein, c'est pas que dans le monde non chrétien, mais même dans le monde chrétien. Je crois qu'il est temps d'arrêter de se battre pour mettre en avant notre petit moi, mais commencer à se battre pour le bon combat de la foi. Des centaines et des milliers de personnes aujourd'hui se posent des questions. Et je crois que nous avons la réponse. La réponse, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'encore aujourd'hui, il agit, il sauve, il guérit. C'est une réalité. Et je vous encourage, Jésus agit encore aujourd'hui. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est temps que les gens se rapprochent de la seule nourriture qui nourrit vraiment. Jésus-Christ. Joseph était le seul qui possédait cette nourriture pour que tout le monde puisse venir à lui, même sa propre famille. Et si Dieu utilisait ce temps pour que ta famille vienne découvrir que c'est auprès de Dieu qu'il y a la vraie nourriture. Il est temps d'amener les gens, d'arrêter d'amener les gens à nous, mais bien d'amener les gens à Christ. Et c'est ça ensemble qu'on veut faire. Dieu nous interpelle en tant que personne, en tant qu'église, en tant que communauté. Joseph avait la bonne nourriture. Qu'en est-il de moi? Quelle est la nourriture que je donne aux autres? C'est une question qu'on se pose ensemble. Alors, j'arrive à la conclusion. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que ce n'est pas trop long. Merci de m'avoir écouté encore, mais j'ai bientôt fini, je vous promets. Ma conclusion, c'est la suivante. On a vu les 3 caractéristiques qui ressortent de l'histoire de Joseph. Un homme en qui l'esprit de Dieu réside, un homme sage et un homme intelligent. On a vu où trouver nos réserves, dans notre communion avec Dieu, dans le choix de l'intégrité et dans les événements de notre vie. Et on a vu, dans une troisième et dernière partie, que les circonstances par lesquels le fait d'avoir des bonnes réserves nous permet en réalité d'avoir la paix dans la crise et d'être un témoignage autour de nous. Ma question est pour toi et pour moi. Où en est ma réserve? Où en sont mes réserves? Où t'en es dans ta relation avec Dieu? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui nourrit ton quotidien? On pourrait se nourrir constamment des réseaux sociaux, et j'ai fait cette expérience, mais je vous assure que ça n'apporte pas que du bon. On peut se nourrir constamment de certaines chaînes d'information, mais ça n'apporte pas que du bon non plus. Par contre, si tu te nourris constamment de la présence de Dieu, ça, je suis sûr que ça t'apporte que du bon. Alors, j'aimerais terminer en vous donnant des devoirs. Pardon, c'est mon côté prof qui ressort un peu là. J'essaie de faire un petit effort. Ouvrez vos cahiers. Non, laissez tomber cet aspect-là. Non, je vous donne quelques devoirs ensemble. Dans Matthieu 25, 1 à 13, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Alors, voilà mes devoirs. Pour cette semaine, mon objectif, c'est que vous puissiez tous prendre ce texte de Matthieu 25, 1 à 13 et que vous puissiez réfléchir ensemble à quel enseignement je tire de cette parabole. Et rassurez-vous, ça sera en lien direct avec les réserves. Matthieu 25, 1 à 13. Réfléchir, méditer et agir. Nous poser les bonnes questions. À quel niveau est ta lampe? Avant de terminer ce moment, moi, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ensemble pour se poser et réfléchir un instant. Je crois qu'on a le temps, au final, on n'est pas à 5 minutes. Et on peut peut-être prier ensemble. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et même si on est à distance, Dieu agit encore aujourd'hui, j'en suis persuadé. Alors on va fermer les yeux et on va prier. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui est là derrière son écran. Tu sais où en sont leurs réserves. Et peut-être certains d'entre eux sont là comme secs, comme s'il n'y avait plus de réserves. Dans ce moment où c'est tellement difficile de faire face à la crise, ma prière, Seigneur, c'est que tu viennes encore là où ils sont, les encourager, les bénir. Qu'à travers la Bible, les paroles de Christ, l'encouragement que tu peux donner, ils puissent repuiser aux bonnes réserves. Qu'ils puissent restaurer cette relation avec Dieu. Peut-être ça fait quelques semaines, quelques jours, quelques heures même, où ils n'ont plus connecté avec Dieu. Je te prie qu'il y ait un temps de connexion avec Dieu encore dans cet après-midi, dans cette semaine qui démarre. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu fais pour nous, de ta fidélité, de ton accompagnement. Je te remercie de ce que les réserves, c'est toi qui nous les donnes. nous nous venir simplement à épuiser. Merci pour l'exemple de Joseph. Merci pour ce qu'il nous apporte derrière. Seigneur, encore dans cette matinée ou dans cet après-midi, en fonction du moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Seigneur, je te prie vraiment de courager, de soutenir, de bénir tout ce qui passe par ces moments de faiblesse, de détresse, de difficulté. Je te prie de venir les visiter, Seigneur, je te prie de parler à leur cœur. Je te prie pour tous ceux qui sont confinés à la maison et qui se disent « Mais Seigneur, ça devient long. » Je te prie qu'ils puissent trouver la force d'aller puiser à la bonne source. Je te prie pour tous ceux qui sont en train de servir, qui s'engagent. On pense aux infirmiers, aux médecins, on pense à tous ceux. Je te prie pour ces gens, je te prie pour tous ceux qui donnent de leur temps pour bénir d'autres, pour encourager. Je te prie vraiment, Seigneur, qu'ils puissent se trouver encore en toi chaque matin, chaque soir, des réserves. Ma prière, c'est que l'église de l'Épi puisse être une église remplie, remplie jusqu'à déborder pour bénir ceux qui sont autour d'eux. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention. Merci pour ce temps qu'on a passé ensemble durant ce culte. Notre prière avec l'équipe pastorale, c'est que vous puissiez garder la foi. Que vraiment vous soyez encore encouragés dans votre foi. N'hésitez pas à nous partager vos nouvelles. On prie pour vous, on partage les nouvelles comme on le peut, mais on est avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse. J'allais dire un bon retour à chacun, mais c'est vraiment des phrases toutes faites. Hein. Je crois que Dieu est en train de nous dire autre chose là. Il faut arrêter de dire un bon retour à chacun. Bonne journée à tous en tout cas, et soyez bénis. À bientôt.